things I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Littérature.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Elisabeth Philippe, Lucille Como, Laurent Nunez pour parler ensemble d'encre sympathique de Patrick Modiano, Les Testaments de Margaret Atwood. Il y aura un coup de cœur d'Elisabeth Philippe pour Nafar de Mathilde Chapuis. Et le journal de la dispute tenu par Lucille Como se demandera s'il faut vraiment publier tous les inédits de Marcel Proust et puis comment les publier. Voilà. C'est à elle qui posera les questions tout à l'heure. Nous ouvrons cette dispute avec « Encre sympathique » de Patrick Modiano, publié chez Gallimard. Dans « Encre sympathique », le narrateur s'appelle Jean, signe habituel de l'auteur pour signifier qu'il s'agit pour beaucoup de lui-même. Jean a un peu plus de 20 ans lorsqu'il rentre à l'essai dans l'agence de détective privé d'un dénommé Hutt. Et si l'affaire Cut, il doit y avoir des jeux de mots à faire, hein. Si l'affaire Cut que Hutt a confié à Jean est simple d'apparence, elle le conduira évidemment bien loin. Il s'agit au départ d'aller, je cite, « demander à la concierge d'un immeuble du 15e arrondissement si elle n'avait pas des nouvelles d'une certaine Noël Lefebvre. » Et si Hutt laisse le champ libre à sa nouvelle recrue, c'est qu'il avait deviné que j'écrirais tout cela plus tard, 50 ans plus tard. Avant d'entendre un extrait de ce texte de Patrick Modiano, première impression sur ce livre, Laurent Nunez.
Un pastiche qui ne m'a pas vraiment chanté.
Elisabeth Philippe.
Du pur Modiano, matinée de Verlaine et de Truffaut.
Lucille Como.
Riche, fin et beau.
Pas mal. Un extrait d'Encre sympathique, lu par Boris Pinault.
Aujourd'hui, j'entame la 63e page de ce livre en me disant que l'Internet ne m'est d'aucun secours. Sur celui-ci, pas de traces de Gérard Mourad ni de Roger Béaviour. Selon le navigateur, on compterait quelques Noël Lefebvre en France, mais aucune ne correspond à celle qui recevait des lettres à la poste restante. Tant mieux, car il n'y aurait plus matière à écrire un livre. Il suffirait de recopier des phrases qui apparaissent sur un écran, sans le moindre effort d'imagination. Et comme pour la photo numérique, on ne verrait plus se développer peu à peu l'image dans la chambre noire. Cette image et cette chambre noire qu'évoquait un écrivain du 19e siècle dans une lettre que j'aurais pu trouver à la poste restante, oubliée là depuis plus de 100 ans et qui m'aurait donné le courage de poursuivre ma recherche. Je continue à ne parler à personne. C'est d'ailleurs dans cette espèce de chambre noire de la solitude qu'il faut que je voie vivre mes livres avant de les écrire. Peut-être serait-il plus simple de respecter l'ordre chronologique et s'aider pour cela d'un très grand nombre de points de repère. Mes agendas sont encore plus vides que celui de Noël Lefebvre que j'avais découvert dans le double fond de la table de nuit. D'ailleurs, pour parler franc, je n'ai jamais eu d'agenda et je n'ai jamais écrit de journal. Cela m'aurait facilité les choses, mais je ne voulais pas comptabiliser ma vie. Je la laissais s'écouler comme l'argent fou qui file entre les doigts. Je ne me méfiais pas. Quand je pensais à l'avenir, je me disais que rien ne serait perdu de tout ce que j'avais vécu. Rien. J'étais trop jeune pour savoir qu'à partir d'un certain moment, vous butez sur des trous de la mémoire.
Encre sympathique de Patrick Modiano. J'hésite à te confier la parole en premier, Laurent Nunez.
Moi j'aime bien les pastiches, donc vous pouvez.
Oh, ce mauvais esprit qui vous caractérise. Pardon, qu'est-ce que vous voulez dire par là, un pastiche?
Disons qu'on a en très peu de signes, en 150 pages, on a une sorte de vade-mecum en fait, de ce que fait Modiano. J'ai pas été ni déçu ni enchanté. Alors c'est vrai que je goûte très peu la prose brumeuse et la nostalgie envahissante. C'est vrai.
Vous avez des qualités par ailleurs, donc c'est pas grave.
Voilà, notamment. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était C'est peut-être l'idéal pour commencer quand on a jamais lu Modiano, mais il y a tout. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de quelqu'un qui était ankylosé en lui-même. Vraiment, mais je le dis comme ça, qui était vraiment...
On ouvre des grands yeux,
voilà, voilà, qui vous savait écoutez. Très bien ce qu'était le style Modiano et qu'il répercutait entièrement, à chaque ligne, partout. Peut-être, on en parlera peut-être pas à la fin, peut-être qu'il y a une sorte de renouveau, de renaissance, mais je me suis tout petit peu noyé dans la recherche de cette Noël Lefèvre et des autres, notamment ce behavior que j'ai longtemps prononcé behavior jusqu'à temps de m'apercevoir comme le narrateur qui ne s'écrivait pas comme ça.
Bon, avec une entame pareille, on va pouvoir vous répondre. Elisabeth Philippe.
Non, Laurent parle de ankylosé, c'est ça, un auteur ankylosé en lui-même. Moi, je trouve au contraire qu'il y a cette légèreté qui est propre à l'écriture de Modiano et que le titre Encre sympathique rend si bien, puisqu'il y a ce processus de révélation, vraiment au sens photographique du terme, qui est à l'œuvre tout au long du roman. Donc, c'est vraiment par fine touche. Donc, oui, on retrouve évidemment dans ce texte tout ce qui est propre à l'univers de Modiano, les fantômes du passé, les agendas, les annuaires, les déambulations dans Paris et dans d'autres lieux, et puis des personnages un peu louches. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà cet emploi de détective privé, d'apprenti détective privé, qui m'a fait énormément penser à Baiser volé, le film de Truffaut, où Antoine Doinel, lui aussi, est apprenti détective privé. Et le fait que le nom de Noël Lefèvre, donc cette femme que le narrateur doit rechercher, soit répété constamment, ça m'a rappelé aussi la répétition d'Antoine Doinel, Fabienne Tabar dans le même livre. Et je parlais aussi de... Dans le même film, pardon. Je parlais aussi de Verlaine. C'est vrai qu'il y a quelque chose, et là, c'est là, encore une fois, où je trouve que le terme ankylosé ou la lourdeur ne correspond absolument pas à ce texte. Il y a ce côté ombre qui passe, comme dans Colloque sentimental, le poème de Verlaine. D'ailleurs, il y a un poème de Verlaine qui est cité dans le roman. Donc, je trouve que tout ça donne une grâce au livre, à ce roman Encre sympathique, et qui, effectivement, oui, on peut dire, subsume ou résume les thèmes de Modiano, et là leur donne vraiment corps, puisque c'est vraiment comment écrire le passé, comment le rattraper, comment le saisir, c'est par l'écriture, par cette encre. Il y a d'ailleurs énormément de mentions d'encre, l'encre noire du dossier de Noël Lefèvre, l'encre bleue floride des enveloppes qui lui sont adressées et que le narrateur va récupérer en poste restante, et puis cette encre sympathique. Donc je trouve, et on parlait de Blanchot pendant la lecture du texte, il y a aussi cette phrase qui est répétée de façon anaphorique, il y a des blancs dans une vie, il y a ces blancs qu'en fait il ne vient pas combler et après lesquels il court en fait en vain, mais ça donne lieu à ce texte et moi je trouve que c'est très 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 beau. Je me laisse toujours prendre et avoir par ces enquêtes et ces quêtes modianesques.
Lucille Comeau, sur ce livre de Patrick Modiano, Encre sympathique.
Oui, alors moi qui suis une très très piètre lectrice de Modiano, je n'éprouve évidemment pas le caractère potentiellement répétitif ou tellement vadémécum dont parlait Laurent. Je vois la dimension métatextuelle et la réflexion sur l'écriture, mais du coup j'imagine que je la vois pas comme vous. Vous parliez des blancs, je trouve qu'il y a un travail sur le cryptage dans ce roman-là qui est à mon avis une grande manière de faire de la littérature, c'est-à-dire de glisser en permanence sous le signifié des signifiants, et la poésie opère de ce point de vue-là, et ça rend le texte profondément vivant aux deux niveaux auxquels il aspire, c'est-à-dire au niveau du roman d'enquête. Moi, je pense pas du tout que ce soit un pastiche, je pense que c'est un roman d'enquête de détective pris au sérieux, une vraie forme, la grande forme, la forme de genre, et je la trouve assez convaincante, même dans sa résolution, dans sa manière d'évoluer, avec des vrais effets de suspens, un vrai attachement, même si il est toujours un peu blanc, il est toujours un peu gris au personnage qui s'opère, et puis une grande confiance aussi, et qui n'est pas lénifiante, en l'art poétique, c'est-à-dire faire en effet de cette encre sympathique un endroit pour exposer une forme de théorie de la littérature qui n'est jamais une leçon, puisque le personnage ne cesse de se contredire. Il ne cesse d'écarter des modes, le journal, en effet, l'annuaire, l'internet pour documenter un livre. Et en même temps, par exemple, à un moment donné, il dit « Bon, bah maintenant, il faut que je me mette à la chronologie parce que sinon, je vais pas m'en sortir. » Et de fait, c'est un leurre. Jamais le récit ne se fera chronologique. Et de ce point de vue, je trouve qu'il y a une confiance en la littérature qui se joue à deux niveaux, au niveau de la narration, c'est une vraie narration, c'est un vrai roman de détective, et au niveau de l'art poétique. Il nous livre quelque chose Après, on peut, je peux pressentir quelque chose d'un peu ancien. C'est-à-dire que son art poétique, la manière dont il regarde la littérature, c'est une manière qui est ancrée probablement dans le XXe siècle. Vous parliez de référence au cinéma et à la poésie. Voilà, 19e, 20e. Mais c'est beau. Et là, par exemple, la géographie, la temporalité qu'il déploie, parce que c'est un livre très géographique et très temporel, ce sont des temporalités totalement fantasmées. Il y a un moment où il est à côté de ce bâtiment-là, de la maison de la radio. Et il y a un garage Chrysler, ça paraît absolument, pour le coup, très cinématographique et très daté, tout ça. Mais il n'empêche que le livre a une double grande valeur, je pense.
Plusieurs points de désaccord, même si moi aussi j'aime le livre. D'ailleurs, je crois qu'il y a un garage General Motors tout près de la maison de la radio, pour y avoir eu affaire un certain Gérard Mourad. Non, ça c'est pas vrai, ça c'est Modiano. Gérard Mourad, c'est un nom. C'est
Roger Béavure.
Le
fameux.
Le garage, le comportement. Mais moi, je crois que c'est pas du tout ancré dans le XXe siècle, ou pas particulièrement. Je pense que ça peut être tout à fait opérant pour un écrivain qui débuterait aujourd'hui, parce que bon, il y a toute cette dimension que Laurent trouve ankylosée, que moi je trouve contraire dans la veine la plus pure, me semble-t-il, de Patrick Modiano, à savoir, vous l'avez évoqué, Elisabeth Philippe, les noms de rue, les téléphones. Il y a même un moment où, quand il découvre un agenda de toile noire avec des chiffres dorés, parce que c'est toujours aussi précis que ça, ayant appartenu donc à Noël Lefebvre, il y a une page et demie comme ça de rendez-vous, de numéros de téléphone, d'annotations, celles vraiment extrêmement sèches, celles qu'on peut avoir dans un agenda. Et je me suis dit que c'est peut-être une forme d'idéal de littérature selon Patrick Modiano, parce que pourquoi faudrait-il en donner plus? C'est peut-être une forme de perfection littéraire, mais la dimension métatextuelle, elle n'est pas spécialement métatextuelle, parce qu'il y a aussi, dans ce roman, il y a un essai de l'auteur Patrick Modiano sur comment j'écris mes livres, qui vient de façon récurrente au fil des pages, s'insinue entre des événements, même minimes parfois. Alors s'il se réjouit en effet que l'Internet ne lui soit d'aucun secours, il explique que les souvenirs viennent au fil de la plume et que si l'on a des trous de mémoire, tous les détails de votre vie sont écrits quelque part à l'encre sympathique, je l'ai noté parce que c'est quand même ça qui donne son titre, mais la question demeure, et ça je le cite à nouveau, faut-il vraiment trouver une réponse? Ne serait-ce pas préférable de laisser autour de soi des terrains vagues où l'on puisse s'échapper? Et c'est là qu'il s'échappe depuis toujours, et je pense que c'est absolument valable pour un jeune homme, une jeune femme de 20 ans qui veut commencer à écrire aujourd'hui, Lucille Comment.
Bien sûr, mais on peut tout à fait faire référence et aborder la littérature en prenant en charge, enfin disons plutôt en mettant en œuvre des grands auteurs du XXe siècle, comme il le fait avec Blanchot en exergue, et rendre ça tout à fait à la fois lisible et opérant. En fait, c'était pas du tout une manière de dire que ça n'avait pas de valeur, que ça n'avait plus de valeur. Au contraire, même ce que vous venez de décrire, allez, je dégaine Proust avant Laurent Nunez, mais il y a quelque chose de profondément proustien dans cette espèce de procédé de la réminiscence. C'est très intéressant parce que c'est pas une réminiscence qui est d'ordre empirique. Chez Modiano, tout est très cérébral. C'est pas la Madeleine qui rappelle un paysage ou qui convoque les noms. C'est le nom qui convoque le nom. C'est-à-dire qu'on fait une pure confiance à la littérature. C'est de la littérature que vient la littérature. Oui, c'est un vrai risque, mais c'est très beau.
Parce qu'il y a un procédé, Laurent, hors micro, a dit que ça faisait partie justement des choses qu'il détestait dans le livre. Mais ce qui est très très beau, c'est que le temps du livre, enfin, devient le temps, la temporalité, c'est celle du livre. Et c'est très très explicite dans un passage où justement, la durée, elle n'est plus calculée en jours, en mois, mais en pages. Et ça, je trouve que ça dit tout, ça dit énormément du rapport de Patrick Modiano à la littérature. Tout s'inscrit, il y a ce temps propre au roman. Et je trouve ça très, très beau. Et ce que je trouve aussi très beau, c'est le jeu instauré avec le lecteur. Vous parliez de confiance en la littérature. Il y a aussi une confiance dans le lecteur, parce que je trouve que cette enquête, elle est menée aussi comme un jeu de pistes avec énormément d'indices, faux ou non, de pistes qui sont fausses ou non, données au lecteur. Et en cela, il y a aussi une relation qui se noue entre le lecteur et le texte. Et je trouve que ça donne effectivement une strate supplémentaire à ce roman qui est très court, mais qui est effectivement très riche.
Laurent Nunez.
Oui, mais en fait, tout ce que vous aimez, c'est exactement pour ça que je trouve que ce roman est assez étrange. D'ailleurs, on l'a dit, il s'est tellement fixé dans l'époque et tout que c'est presque plus un roman. Lui, il voudrait que ce soit vrai. Tout est vrai, les lieux sont là. La page 63, c'est vraiment la page 63. C'est-à-dire, l'illusion référentielle est à son maximum. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'en effet, je trouve... comment vous dire ? Vous savez... Les psychanalystes, ils disent que la pire des choses...
Ah, je vous ai pas interdit Proust, Lacan, voilà. Mince, hein, voilà. J'ai oublié.
Ils disent que la pire des choses, c'est d'être amoureux de son symptôme. Et j'ai l'impression ici qu'il y a Modiano complètement amoureux de la brume, de la brume parisienne qu'il peut réveiller par un renouveau romain, hein, qui est à la fin, mais qui est quand même là, de la disparition. Vous savez, par exemple, ce roman, il ressemble beaucoup, en effet, à Rue des Boutiques Obscures ou aux trois nouvelles des Inconnues, au féminin pluriel. C'est trois femmes qui partaient. Mais elles partaient et elles gardaient leur secret. Elles gardaient leur mystère. Ici, ce mystère, il est anéanti à la dernière page avec cette femme qui dit « Je dirai tout ». C'est la dernière phrase. Je lui dirai tout.
Oui, mais c'est un futur de la pour le coup, c'est un futur de la littérature. Là, l'illusion référentielle, c'est un vrai jeu.
Ah, ouais, alors, il y a un futur de la littérature qui montre que le narrateur, qui est l'auteur, visiblement, il est récompensé par sa recherche. Il aura finalement accès à la totalité du savoir de cette femme. Alors que l'enquête, tout d'un coup, on n'a rien eu de l'enquête.
Qui dit que cette femme va pas le manipuler comme lui-même, le narrateur, nous manipule.
Alors ça, c'est autre chose. Mais alors, dans ce cas, hop, je passe à autre chose.
C'est comme le principe
dans ce cas,
d'incertitude.
Autre chose. Comme Lucille l'a dit, c'est la relation métatextuelle. C'est-à-dire que moi, je trouve que nommer un livre Encre sympathique, c'est assez orgueilleux. C'est-à-dire, oser dire, je vais vous expliquer le moyen métatextuel, comment j'ai fait ce livre. Enfin, je suis obligé de citer Proust. Mais quand Proust.
Vous aurez un blâme, c'est pas grave.
Et quand Proust dit, mais il le dit justement à la toute fin de la recherche, pas au début. Pas au début. Il dit, laisser une théorie littéraire dans un livre, c'est comme laisser un prix dans un objet. Voilà. Ça se fait pas, c'est pas classe. Il manque quelque chose. Tiens, coup.
Mais c'est pas une théorie littéraire.
À travers l'encre, à travers mon écriture, vous allez repérer j'écris comme ça pour que vous voyez des choses remonter. Moi, je trouve que le propre d'un auteur, c'est de proposer, et c'est le critique ou le lecteur qui dit c'est une encre sympathique. Heureusement qu'il y a critique et lecteur pour dire ce que veut dire le livre. Si Modiano nous dit maintenant ce que veut dire son livre, on est foutu.
Justement, lui qui pratique la fuite, le terrain vague, le blanc, c'est quand même le cœur même de ce livre, c'est le blanc. Et donc c'est cet espace qui est laissé au lecteur. Moi, je ne trouve pas du tout qu'on soit enfermé dans une exégèse imposée.
Il ne fuit pas puisqu'il nous donne la solution de son astuce. Bah. C'est l'encre sympathique. Voilà. Il ne fuit pas, il nous donne la solution.
C'est un livre, comme à peu près tous les livres de Patrick Modiano, qui est un livre d'hypothèses. Celle-là en est une. Parmi d'autres, si vous la prenez pour argent comptant, ça définit le lecteur que vous êtes, comme la dernière phrase que vous entendez d'une façon qui n'est pas celle dont nous l'entendons.
D'autant que le narrateur n'est pas totalement fiable. On le voit bien qu'il n'est pas totalement fiable. Il y a quand même énormément de fausses pistes, de détours, d'incohérences ou de contradictions, Donc on peut pas, cette théorie là aussi, elle doit pas être prise, je pense, de façon tout à fait
non, parce qu'en plus
au pied de la lettre,
c'est un narrateur terminé. La question narrateur écrivain qui pourrait être plaquée, extrêmement simplifiée, elle est d'une complexité, c'est de l'orfèvre, c'est un travail d'orfèvrerie, c'est-à-dire que ce narrateur, on peut toujours soupçonner que lui-même est en train d'inventer tous les éléments qu'il nous met à disposition et que tout est fiction. Tout est fiction.
C'est comme le tiroir à double fond dans lequel il trouve l'agenda.
Ça, antipathique.
Annecy, une ville qui l'invente sur le coup. Il dit à un des personnages, moi je vivais à Annecy, donc j'ai rencontré cette jeune femme. Et après, on apprend qu'en effet, il vit à Annecy. Enfin, il y a quand même plein de choses comme ça qui laissent entendre que tout est du blanc.
C'est-à-dire,
les clés qu'il nous donne, elles sont toutes aussi blanches que les blancs qu'elles sont supposées ouvrir.
C'est pas Proust, c'est Malevitch.
C'est du carré blanc sur fond blanc.
Bon, mais on vous expliquera à nouveau.
Je suis en train de reparler, donc je me coupe.
Encre sympathique de Patrick Modiano. Un régal. Publié chez Gallimard.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Bon, nous pourrons continuer à nous disputer à propos de Proust, ou plutôt à propos de ce qu'on fait subir à Proust. Dans quelques minutes, il y aura aussi un coup de cœur d'Isabelle Philippe pour un livre de Mathilde Chapuis. Mais pour l'heure, nous parlons des Testaments de Margaret Atwood chez Robert Laffont, une traduction de Michel Albaré-Match. Cette sortie, forcément un événement, plus de 30 ans, 35 ans après La Servante écarlate, dont les Testaments poursuit le récit pour lui donner une conclusion. Point d'interrogation. Entre-temps, La Servante écarlate est devenue un roman vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde, adapté au cinéma, puis en série télé, toujours en cours d'ailleurs. Ça a marqué les esprits. On rappelle que le roman de départ se situe dans un futur proche, dans lequel la population a entraîné une chute, une très forte baisse en tout cas de la natalité, et qu'un régime totalitaire, religieux, a pris le contrôle d'une bonne part de ce qu'on imagine être les États-Unis, quand on a une frontière avec le Canada a priori, et les hommes y règnent en maître. Les femmes sont donc soit épouses, soit Martha, c'est-à-dire les domestiques, soit tantes, celles qui forment les servantes ayant le rôle de reproductrices, toutes les autres étant envoyées dans des colonies, zones hautement toxiques. Bon, ça c'était La Servante écarlate. Les Testaments s'ouvrent 15 ans après la fin de ce premier volet, du coup, et l'histoire va nous être racontée sous différents points de vue. Mais qui parle, nous le saurons plus tard dans cette émission. Premier sentiment sur cette suite, Elisabeth Philippe.
Politiquement irréprochable, littérairement plus contestable.
Lucille Comeau.
Une machine dystopique usée qui fonctionne désormais à minima.
Laurent Nunez. C'est lui qui ouvre le grand la bouche.
Hein. C'est vrai.
Choqué.
Il y a un renouveau narratologique, vraiment, mais qui est évident.
Voilà. Bon, écoutons un extrait, une lecture faite par Luc Vauvillier.
J'écris ces mots dans mon sanctuaire privé, au sein de la bibliothèque d'Ardua Hall. Une des rares encore debout après les autodafés enthousiastes qui ont embrasé tout le pays. Il fallait éliminer les traces de doigts corrompus et tachés de sang du passé afin d'aménager un espace propre pour la génération moralement pure, sans doute tout près de poindre. En théorie. Cependant, ces empreintes sanglantes comptent aussi les nôtres, et celles-ci ne s'enlèvent pas si facilement que ça. Moi qui ai enterré bien des choses au fil des années, j'aurais aujourd'hui tendance à les déterrer, ne serait-ce que pour ton édification, mon lecteur inconnu. Si tu me lis, c'est au moins que ce manuscrit aura survécu. Mais peut-être que je me fais des idées, peut-être que personne ne me lira jamais. Peut-être que je ne ferai rien d'autre que parler au mur, ou à un mur, aller savoir. Assez d'écriture pour aujourd'hui. J'ai mal à la main, au dos, et ma tasse de lait chaud du soir m'attend. Je vais fourrer ce laïus dans sa cachette en évitant les caméras de surveillance. Je les ai installées, je sais où elles sont. En dépit de ces précautions, j'ai bien conscience du risque que je cours. Il peut être dangereux d'écrire. Qui sait quelle trahison, quelle dénonciation m'attendent éventuellement ? Il en est plusieurs à Ardua Hall qui adoreraient mettre la main sur ces pages. Patience, leur conseillais-je en silence. Il y aura pire.
Bon, il semblerait que nous ne soyons pas tous d'accord concernant celui de Margaret Atwood, et c'est tant mieux. Dispute, il va y avoir. Je vais faire comme tout à l'heure, finalement. C'est peut-être pas la personne qui a dit le plus grand bien de ce livre qui va commencer, c'est Elisabeth Philippe.
Donc vous annonciez en préambule que le roman était raconté par plusieurs voix. Donc parmi ces voix, et il y a celle qu'on vient d'entendre, c'est celle de tante Lydia. Donc,
ça y est, vous dites tout, vous mangez le morceau.
Bah, c'est pas...
Oh bah...
Je divulgage pas grand-chose, là.
Ouais, non. Bah, moi, j'hésite à le dire, mais bon.
C'est un nouveau.
C'est fait, je peux le dire maintenant.
C'est fait.
Ah, ça, pardon. Me faisait... ça me paraissait pas non plus.
Bon, bah voilà, c'est la preuve que ce roman ne fonctionne absolument pas, puisque c'est censé être un suspense, n'en est pas. Enfin, j'ai éprouvé aucune surprise. Donc, tant que Lydia, pardon, mais c'est.
Tu veux pas dire le nom des deux autres?
Alors, il en est à tutoyer maintenant. Alors là, vraiment, cette émission par avolo. Hein.
Qui est donc la chef des tantes, donc de ces femmes qui collaborent au pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui, a priori, est très, très peu sympathique et qui participe aux tortures auxquelles sont soumises la plupart des jeunes femmes. Et les deux autres voix, ce sont deux jeunes filles, l'une qui est née à Galaad et l'autre qui qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore dit
non,
trop
bon,
de
bon, non, bon,
choses. Et l'autre qui vit au Canada. Et qui ont
De l'autre côté.
Alors, excusez-moi, je pensais une chanson tout d'un coup avec
vous. Vous voulez chanter peut-être?
Non, ça me donne vraiment pas envie de chanter. Donc il y a ces trois voix qui sont entretissées.
Alors peut-être.
Je sais pas si c'est ce côté choral qui vous fait dire, cher Laurent, que c'est tout à fait nouveau. Là, j'espère que non,
ça
quand même.
Non, ça quand même. Il a lu deux trois livres avant de venir.
Non. Bon. Donc l'action se situe 15 ans après celle de la Servante Écarlate. La République de Galaad est donc sur le déclin. Comme dans la Servante Écarlate, cela permet à Margaret Atwood d'écrire un système totalitaire. Là, ce système totalitaire, en déliquescence, rappelle l'URSS post-stalinienne, on va dire rapidement. Il y a quelques passages intéressants sur ce sujet-là, puisqu'on voit la vie d'avant, au moment où la dictature se met en place, comment elle se met en place. Donc il y a ces mécanismes qui sont un peu étudiés par Margaret Atwood. Après on n'est pas non plus, c'est pas Hannah Arendt. Hein. Et non, est-ce que voilà, je trouve que c'est vraiment en termes de langue, il y a un énorme problème. Cette femme est poétesse. Je veux dire, la Servante Écarlate, c'était quand même tenu par une langue extrêmement violente, sèche, qu'on ne retrouve absolument pas. Et ça tient à quoi? Ben ça tient notamment au fait que deux des voix sont des voix d'adolescentes et on se retrouve avec des formules d'une indigence du style. Quelle barbe la tyrannie quand elle se met en place où la vie, ça craint. Donc déjà, ça c'est quand même un peu compliqué. Ensuite, je pense qu'il y a un problème de traduction. Il y a des vraies erreurs de traduction. Par exemple, un coup d'État, ben non, ça, là on parle de coup, donc c'est le mot anglais, ça c'est compliqué. Il y a des termes comme le free-free. Même si c'est une enfant qui parle, pour parler du sexe féminin, je suis pas sûre qu'on dise le free-free. J'ai pas vu le terme anglais, mais c'est quand même... Bon, tout ça plombe énormément la lecture. Et moi, je pense, et Margaret Atwood, dans une interview dans un journal anglais, disait qu'effectivement, pour écrire cette suite de La Servante Écarlate, elle avait eu beaucoup d'échanges avec le créateur de la série. Et je trouve que, on voit effectivement que ça a été énormément édulcoré. Sa langue a été édulcorée. Ça a pris les mauvais côtés de la série télé. Et je trouve que ça gâche terriblement, terriblement la lecture.
Laurent Nunez, parole à la défense sur ses testaments.
Oui, pour pouvoir apprécier ce livre, qui est un livre choral. Alors évidemment, c'est pas Tandis que j'agonise. On est clair. Voilà, c'est pas Magnolia dans la rupture des tons. Il faut comprendre comment le problème initial de Margaret Atwood. La série, la première saison de la série, c'était le livre, La Servante Écarlate. La saison 2 et la saison 3, c'est une invention des scénaristes dans le temps. Quand on a proposé à Margaret Atwood de faire la suite, elle a été d'un coup bien embêtée. Est-ce qu'elle allait répéter ce que les scénaristes avaient dit? Du coup, c'est le même problème qu'il y a eu pour Game of Thrones il n'y a pas si longtemps. Et du coup, on sent qu'elle a été marquée par ça. L'astuce qu'elle a trouvée, qui est une bonne astuce, hein, c'est du coup de prendre encore un coup d'avance sur ceux qui avaient pris un coup d'avance. Et de se déporter à 15 ans après. Et l'autre astuce, c'est de pas jeter le bébé avec l'eau du bain et de regarder la série, et de prendre un personnage de la série qui n'était pas dans son livre. Qui est une des voix, on dit ça juste, voilà, qui est une des voix féminines, et de l'incorporer. C'est déjà extrêmement malin. Vraiment, c'est
oui, enfin,
quand on voit.
On va pas se relever la nuit quand même pour dire que c'est formidable de faire ça. Et puis, vous parlez d'un problème pour Margaret Atwood, c'est quand même pas.
Ah si. Et puis, le choix des personnages, c'est-à-dire quelqu'un d'assez vieux pour raconter tout le passé.
Ah, oh, c'est malin.
Vous savez, c'est l'œuvre de Colomb. C'est l'œuvre de Colomb. Une fois qu'on l'a trouvé, tout le monde dit il fallait le trouver. Ah, c'est facile.
Non, franchement, là, non.
Mais ça suffit pas à faire un livre, surtout.
Ah, moi, j'ai trouvé ça vraiment assez malin, assez rusé, mais vraiment, peut-être pas en tant que grand écrivain, mais en tant que, je sais pas comment dire, en tant que littérateur ou en tant que quelqu'un qui avait un problème à délimiter, ce problème a été parfaitement résolu. Ensuite...
Ah bah après, du coup, elle n'a rien fait. Tu vois, j'ai trouvé ça, j'arrête, c'est bon.
Non, il y a deux choses. L'étouffement, Gilead ou Galad, maintenant, dans la nouvelle traduction, l'étouffement a été annulé avec de nouvelles entités, les Perles, les Mayday, qui ont le droit d'aller à l'extérieur, au Canada. Donc moi, à chaque fois, j'ai applaudi intérieurement, non pas dans la qualité, mais vraiment dans les astuces, dans les trouvailles qu'elle a eues pour délimiter, pour agrandir son terrain. Tout ce qu'elle dit sur la religion, les femmes et tout, on le connaît.
Voilà, mais parlons, parce que là, vous avez parlé de tout sauf du livre, sauf dans votre dernier bout de phrase, c'est quand même, à part qu'elle est super maligne, il y a quand même un certain nombre de pages
avec trois personnages, dont deux qui sont liés. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, avec à la fois un personnage qui est dedans, et qui a vu tout le passé, qui est capable de tout redécrire, et un personnage qui est dedans aussi et qui va devenir et qui va expliquer la couleur verte, si on veut, pour le dire de manière un peu énigmatique, de la couverture. Ce n'est plus la sorte écarlate, c'est une sorte de vert qui est désormais la couleur de l'âge nubile. Et puis une troisième qui est complètement extérieure. Et en fait, ce personnage extérieur qui ne voit Galad que par la télé. Ça, c'est nous, finalement. C'est nous qui ne connaissons un pays que par ça.
En fait, maintenant, je vous sens vous-même assez peu convaincu par le livre. Je vous assure, depuis tout à l'heure, vous tournez autour.
Il y a juste un truc que je n'ai pas aimé, je peux le dire. C'est la toute fin, sur ce colloque, ce 13e colloque, qui est une astuce narrative.
C'est moins maligne que les autres.
En fait. C'est vrai.
Lucille Comeau.
Non, mais je vais pas redire ce qu'a dit Elisabeth sur la construction. Moi, je trouve que au-delà du style et de la traduction, il y a un gros problème d'équilibre narratif qui fait que on a des attentes qui gonflent, disons pendant à peu près 300 pages.
Ça, c'est pchit,
et tout se résout d'une manière totalement invraisemblable et expédie à la fin avec des scènes d'action bâclées. Moi, je pense que c'est bâclé. Vraiment, je pense que c'est bâclé. Je pense que ce n'est pas possible de reprendre une forme dystopique qui avait, disons, une pertinence politique il y a 35 ans, en effet, parce que référence à l'URSS qui s'effondrait, etc., sans penser ce que ça veut dire aujourd'hui. C'est-à-dire que écrire ça sans prendre en compte tout le discours d'aujourd'hui sur, par exemple, la catastrophe écologique, ou même penser Daesh, c'est-à-dire que des femmes qui se gantent pour sortir, qui n'ont plus le droit de lire, qui n'ont plus le droit d'écouter de la musique. Évidemment que pour nous, quand on lit ça aujourd'hui, c'est la première chose à laquelle on pense. Et ça, c'est un impensé du livre, parce qu'elle a la flemme, en fait, Margaret Atwood. Elle ne pense pas le présent. Et du coup, c'est ni fait ni à faire, parce que sur le fond, la dystopie ne fonctionne, à mon avis, plus du tout. Il n'y a plus d'effet de terreur, il n'y a plus d'effet de pitié. Les personnages sont complètement désincarnés, parce que le monde qu'elle décrit est moribond, et pas au sens où elle l'entend. C'est-à-dire, c'est pas Galahad sur la fin, comme elle veut nous le décrire. C'est son idée de Galahad qui est terminée. Il n'y a plus rien à faire, littérairement, là-dessus. C'est fini. Et si narrativement, c'est aussi pauvre, c'est parce qu'elle ne pense pas le monde qu'elle a construit il y a 35 ans. Il n'est pas pensé, ce monde-là.
Oui, on en a tellement fait une prophétesse. On a vu en elle celle qui annonçait la limitation des droits des femmes aux États-Unis. Et là, effectivement, donc, on pensait qu'elle avait trois coups d'avance. Et là, elle est complètement... vraiment, pour moi, c'est une autrice importante, hein, Margaret Atwood. Je ne voudrais pas du tout minorer son œuvre, loin de là. Mais elle a quand même reçu le Booker Prize pour ce livre.
Pour celui-là ?
Oui.
Mais ça,
oui, qu'elle a partagé avec Bernardine Evaristo, mais c'est impensable. Donc c'est un peu l'inverse de Peter Handke, en fait. Vous savez, toujours l'idée, il faut dissocier l'œuvre de l'artiste. Bon, elle, c'est une femme absolument irréprochable, fantastique, tout est parfait. Enfin, son discours politique, moral, il y a rien à redire. Mais là, son œuvre, ça pêche littérairement de façon assez dramatique.
Du coup, c'est réprochable. C'est-à-dire, ne pas le penser, c'est une faute morale et politique. Parce que le livre s'inscrit là-dedans. Donc, on peut pas. Oui.
Mais c'est un sale coup pour le Booker Prize, franchement, qui baisse dans nos estimes. Sauf celle de Laurent Nunez, bien sûr.
Oui, vous savez, dedans, il y a une préface qui est un discours reçu dans un prix qui est pas génial. Mais à la toute fin, il y a des remerciements que normalement personne lit, que dans le taxi, je sais pas quoi faire. Et il y a une phrase très juste d'elle, où elle explique que quand elle a écrit ce livre, elle a eu un seul axiome, qui est très juste. C'est exactement ne rien écrire qui ne soit arrivé au moins une fois dans l'histoire des hommes.
Donc, c'est-à-dire qu'elle le disait déjà pour la série.
C'est un livre. C'est un livre.
Là aussi, c'est pas renouvelé.
Moi, j'avais la série, j'avoue. Qui parle essentiellement du passé. Vous êtes en train de dire, zut, elle n'arrive pas à prédire le futur.
Non, on parle du présent.
Elle ne pense pas le présent.
Mais c'est la même chose, le passé et le présent, pour elle, ça se répète. Sa description de l'avenir, qu'est-ce que vous en savez, que ce n'est pas la description du futur? Enfin, je ne comprends pas.
Non, mais ce n'est pas la question. Moi, je m'en fiche, en fait, qu'elle me prédise l'avenir, Margaret Atwood. Je pense juste qu'on ne peut pas écrire cette position des femmes, par exemple, sans... se dire que ça résonne avec des formes d'actualité, des formes de domination, par exemple, sur les femmes, qui ont eu lieu depuis les années 80, à l'époque où elle a écrit La Servante écarlate. Si c'était si fort... Mais non, pourquoi, ça ne résonne pas.
Pourquoi Gala, c'est très artificiel. Pourquoi Gala, ce ne serait pas, justement, ces territoires auxquels vous pensez?
Parce que ça se sent que ça la gêne, en fait. Je pense que ça la gêne. Parce que, par exemple, dans La Servante écarlate, il y avait des descriptions extrêmement précises. C'est vrai. C'était ça qui était beau. Des habits, ce que vous décriviez, les habits verts, la manière dont les corps se meuvent à l'intérieur de ces habits. Il y avait une dimension érotique extrêmement forte dans tout le début de La Servante écarlate. Là, il n'y a plus ça du tout. Parce que la question la gêne. Moi, je pense que ça la gêne. Honnêtement, tout le long de ma lecture, je me suis dit, elle est bien gênée. Elle est bien gênée parce que la domination sur les femmes a pris d'autres formes et elle ne sait pas quoi en faire.
Les Testaments de Margaret Atwood est publié en français Robert Laffont dans une traduction de Michel Albaret Match. C'est l'heure du coup de cœur, ce soir celui d'Elisabeth Philippe pour Naffar de Mathilde Chapuis, publié chez Liana Lévy. Elisabeth.
Oui, c'est un premier roman et le Naffar du titre, c'est un mot utilisé en Arabie Saoudite pour désigner les travailleurs venus d'Inde pour fournir une main-d'œuvre peu coûteuse. Et puis par extension, Naffar désigne celui ou celle qui est issu d'une région pauvre, contraint de travailler dans un pays plus riche et donc un être perpétuellement en transit. Et l'homme dont la narratrice de ce roman retrace l'histoire ici, c'est un Naffar. Un homme qui a fui la Syrie en guerre, qui a fui sa ville, Homs, et le café qu'il y avait bâti. Et depuis, cet homme vivote en Turquie, il travaille dans un café qui cette fois ne lui appartient pas. Et c'est là, donc, à Istanbul, qu'il fait la connaissance de la narratrice. Les deux tombent amoureux. Elle, évidemment, se plaît aux côtés de cet homme, mais lui, de son côté, ne pense qu'à partir, à gagner une Suède fantasmée. Et ce qui est très beau dans le livre, c'est la façon dont Mathilde Chapuis montre que pour cet homme, ce Naffar, rester en Turquie est impensable, mais partir est quasiment impossible. Et en fait, ça donne lieu à une odyssée quasiment impossible que Mathilde Chapuis raconte avec énormément de finesse. En fait, elle va puiser dans les récits mythologiques pour raconter ce drame d'aujourd'hui. Et elle fait de sa narratrice une Pénélope condamnée au provisoire, une Pénélope qui retisse, en fait, qui est condamnée à retisser l'histoire de l'homme qu'elle aime, un homme qui, évidemment, on peut rapprocher d'Ulysse, mais cette fois un Ulysse empêché. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est le côté chant antique, en fait, de ce texte. Un chant qui est constamment adressé à l'homme aimé par un tutoiement. C'est perpétuellement scandé par un tu qui finalement nous rend cet étranger extrêmement proche. C'est un très beau livre.
Naffar, qui vous était conseillé ce soir par Elisabeth Philippe, c'est un livre de Mathilde Chapuis chez Liana Lévy. Nous voilà entre les pages du journal de la dispute tenue par Lucille Comeau et ce soir, Marcel à tout prix.
Oui, il y a quelques semaines, la planète Proust était tout émoustillée à l'annonce de la parution d'Inédit aux éditions De Fallois sous le titre « Le mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites » présenté par le spécialiste et professeur à Strasbourg, Luc Fraisse. Alors c'est un volume de 170 pages qui comprend 9 nouvelles de Proust titrées et plus ou moins achevées, ainsi qu'une dizaine de documents présentés comme « aux sources de la recherche du temps perdu ». Le tout avec force introduction, préface et notation pour contextualiser et expliquer le statut et le sens de ces textes. Quelques exemples, une visite à une amie atteinte de cancer écrite à la première personne, l'histoire d'un tragique échange épistolaire entre deux femmes dont l'une est amoureuse de l'autre, l'évocation érotique d'un capitaine d'infanterie ou encore un dialogue philosophique sur les vices et vertus des amours homosexuels. Dans son introduction, Luc Fraisse détaille la manière dont ces textes lui sont parvenus et le rapport qui existe selon lui entre eux, qui sont disons de trois ordres. l'ordre biographique, le fameux Proust d'avant Proust, hein, qui fascine tant des lecteurs réticents à admettre que Proust pourrait être l'écrivain d'une seule œuvre. L'ordre formel, ces textes seraient des nouvelles. Là, j'avoue, l'étiquette me pose de gros problèmes, on y reviendra. Et puis, un ordre, disons, thématico-moral. Ces textes travailleraient la question de l'homosexualité sous un jour prétendument plus clair et plus personnel que la recherche. Voilà, je voulais vraiment tenter un compte-rendu objectif des intentions de Luc Fraisse. Hein, j'arrive pas, hein, d'emblée. Je suis pas la seule à les questionner. D'ailleurs, au milieu des bruyantes délectations du club de fans, certaines voix discordent, notamment celle d'Yves Tadier, qui a lui aussi conduit de nombreuses éditions de Proust. Dans un article paru dans Le Monde le 17 octobre dernier, il questionne longuement, et avec des arguments divers, génétiques, thématiques, éditoriaux, la pertinence du corpus, voire même la pertinence de la publication tout court, doutant de l'intérêt de ces pâles histoires, je le cite, à la fois pour la mémoire de l'écrivain Marcel Proust et pour les lecteurs. Une formule résume ainsi l'ambivalence du spécialiste devant de telles découvertes, partagée entre le désir de tout connaître et le regret d'être déçu. Alors selon vous, attention ça va être direct, à quoi sert ce livre ?
Ah, bah écoutez, allez, Laurent Nunez, il y a une temps cité Proust dans nos disputes.
Ouais, je vois encore le citer là avec certaines phrases. Moi, j'aime beaucoup ce livre parce que je trouve attendrissant. C'est-à-dire que, vous savez, Proust, si c'est vraiment le plus grand... C'est vraiment le plus grand écrivain.
Vous savez, virgule, c'est la phrase...
C'est le plus grand écrivain du XXe siècle. Et on pourrait croire... qu'il a toujours été comme ça. Vous savez, c'est le problème du génie. Enfin, moi, j'aime beaucoup ces livres où on découvre qu'en fait, le génie s'est construit. Que le génie n'était pas comme ça. Que Proust, à 20 ans, il est un peu bête. Ça ne me dérange pas, moi.
Que la
ponctuation est défaillante. Qu'il y a des problèmes de rythme. Moi, au contraire, je trouve que ça donne de l'espoir. C'est-à-dire que vraiment, on entend le Proust, il est là, il est à côté, on le sent, il n'arrive pas à dire des choses qu'il n'arrivera toujours pas à dire dans la recherche, notamment sur sa sexualité, il y a des choses sur ça, sur les parents qu'il n'arrive toujours pas à dire. Il le dit d'une autre manière, c'est un livre complètement incomplet, où il y a en effet la longueur des nouvelles, je veux dire, des textes varie et telle qu'en fait, il y a que deux ou trois, les premières, qui sont vraiment des nouvelles, et en tout cas celle qui donne son nom, le mystérieux correspondant, qui est assez intéressant. Et d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai lu le mot cancer dans la plume de Proust. C'est un livre qui est attendrissant de son. Vous savez, vous avez vu, maintenant j'hésite à citer. Apollinaire disait, publions tout dans un grand éclat de rire. Et elle pouvait pas rester là. De Fallois les avait cachés, en tout cas les avait dans un coffre. Il fallait bien les publier, comme on a publié le Contre Sainte-Beuve. C'est lui-même qui l'a publié avec les défauts que ça a. Et on peut en reparler si vous voulez. Moi, je trouve que c'est un livre vraiment qui m'a montré qu'il y avait un Proust avant Proust.
Mais vous le saviez. Vous le saviez. Bon, Elisabeth Philippe.
Je suis assez d'accord avec Laurent. Et oui, quand même. D'une part parce que vous avez parlé de bruyantes délectations des amoureux de Proust, je les ai pas trop entendues justement. Moi, je trouve que ce lancement a été modeste et qu'il
il y a eu des papiers partout, il y a eu des articles dans Elle, dans tous les journaux, dans tous les quotidiens.
Oui, mais c'est quand même c'est une sortie.
C'est une sortie scientifique, je veux dire, c'est un ouvrage scientifique. C'est très rare qu'il y ait autant de publicité pour un ouvrage scientifique.
Oui, mais c'est Proust.
D'accord.
Moi, c'est ce que j'appelle.
Non, mais ça fait beaucoup moins de bruit, par exemple.
Que Margaret Atwood.
Non, que Françoise Sagan. Et là, on est les quatre coins du cœur. Et là, on est vraiment face à un inédit bien plus problématique que.
Le bruit, il a été quand même très nocif, non, pour le Sagan.
Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, il y a eu applaudissements. Il y a eu, son fils est allé sur toutes les radios. Bref,
Proust n'était pas libre.
C'est important. Enfin, ce que je dis, c'est pas du tout anecdotique. C'est-à-dire que je pense que ce texte n'a jamais été proposé pour autre chose que ce qu'il est. Et l'appareil critique qui l'entoure est très honnête. À aucun moment, on nous dit ce sont des trésors exhumés ou des chefs-d'œuvre cachés. Jamais, ce n'est dit. critiques comme ça.
On leur en fait dire le plus possible quand même à ces textes à chaque
oui,
fois.
Oui, bah, peut-être qu'on tire un peu sur la corde, effectivement.
Beaucoup.
Mais non, mais moi je suis d'accord avec Laurent, ça nous permet de rentrer dans cet atelier, dans cette fabrique de l'écrivain qui est effectivement très très balbutiant, mais dans lequel on trouve quand même des choses intéressantes. Les nouvelles, oui, on va pas mentir, je vais pas non plus, je suis pas là pour dire que si elles sont merveilleuses, ce n'est pas le cas. Elles sont la plupart du temps inachevées. Il y a énormément de répétitions, de formules maladroites. On est très très loin de la phrase proustienne qui nous charme tant dans la recherche. Il y a beaucoup de métaphores ratées. Heureusement qu'il va s'améliorer avec le temps. Je trouve que le texte est accompagné d'un appareil critique tout à fait honnête qui recontextualise, qui replace les nouvelles. Enfin, qui les donne à lire pour ce qu'elles sont. Et en cela, je trouve que, bah oui, c'est un objet modeste. Et à quoi il sert? Bah, effectivement, il sert pas à éprouver énormément de plaisir devant une œuvre inédite de Proust, mais il servira à des étudiants, il servira à des chercheurs. Et en ça, on peut dire que c'est déjà bien.
Je veux revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je trouve ça absolument formidable qu'un ouvrage scientifique soit abordé par tous et qu'il ait cette publicité-là.
Oui.
Moi, le caractère scientifique me pose vraiment problème, notamment de l'introduction de Luc Fraisse. Il y a un mélange, je pense, qui est voulu et qui est pour le coup est de l'ordre de la stratégie éditoriale entre une manière d'aborder l'écrivain, un peu de la manière dont vous le faites, Laurent Nunez, qui n'est pas ma manière d'aborder les écrivains, mais pourquoi pas, c'est-à-dire l'angle empathique, la tendresse, la question du coup de se poser, est-ce que Proust aurait voulu qu'on publie ça? Moi, ça m'intéresse pas beaucoup, mais c'est intéressant. Mais lui, il en parle, en tout cas. Lui, c'est un des angles dont il parle, et l'angle proprement scientifique de la génétique du Proust d'avant Proust, mais littéraire, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'il y a en germe dans le style à cet endroit-là, comment ça peut évoluer, ce qui est quand même assez peu abordé. Et là où moi la stratégie éditoriale me hérisse un petit peu, c'est cette fameuse cohérence de l'homosexualité d'avant la recherche. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu d'accrocheur là-dessus, je pense que c'est vraiment volontaire, et qui donne lieu à des formules dans la préface, je vais pas citer à charge, mais qui me hérisse, c'est-à-dire que parce que d'un seul coup on lâche complètement l'affaire des études littéraires, parce que il dit je dans une nouvelle, ça veut dire que c'est plus clair son homosexualité que les grandes pages sur l'homosexualité de Gilberte ou d'Albertine dans Albertine disparue. Mais on croit rêver.
Non, parce que là vous faites erreur. Quand il parle de l'homosexualité là, c'est il fait pas une comparaison avec la recherche, il fait une comparaison avec le recueil des nouvelles Les plaisirs et les jours dont ces nouvelles en fait auraient pu faire partie. Oui. Elles ont été écrites au même moment quand Proust avait une petite vingtaine d'années. Donc c'est pas
l'hypothèse selon laquelle il les aurait écartées à cause de ça.
Non, parce que pas parce qu'elle serait trop explicite, parce qu'il y en aurait eu trop, parce que ça aurait fait donner un côté très thématique au plaisir et les joies qui en contiennent déjà.
Sur quoi, Laurent?
Je suis assez content d'être éloigné de Lucie, j'ai l'impression qu'elle va bondir sur moi. Non, mais en fait, ce qui est intéressant.
Ce sera le cas à la fin de l'émission.
C'est qu'en fait, on a peut-être une sorte d'illusion d'optique au sens où on voit ce livre-là qui est non proustien, il n'a pas voulu et tout, et les autres livres comme si eux-mêmes étaient proustiens. Mais le Contre Sainte-Beuve que tout le monde lit, il n'est pas de Proust. C'est une reconstruction de Fallois qui a caché 65 feuillets, tout le monde le sait, et que dont personne n'a à disposition. Donc un jour, on découvrira peut-être que c'est un autre Proust. Tous les 7 tomes de la recherche à partir de Sodome et Gomorrhe, ce n'est plus Proust. C'est son frère, à tel point que je suis sûr que les gens ne lisent pas, n'ont pas lu la recherche en même temps. La fugitive et Albertine disparue, ça, c'est le nom d'un tome. C'est deux livres différents parce qu'on a travaillé sur des volumes différents. Moi, j'ai le Pléiade de Proust en 3 tomes. Il y a 2 années, ils l'ont sorti en 4 tomes. Ils ont rajouté un tome. Ce que nous avons de Proust n'est pas l'œuvre de Proust. C'est l'œuvre de critique. Et oui, je suis désolée, la vérité
oui,
est là.
Oui, mais bien sûr. Mais donc, du coup, la personne Proust n'est pas intéressante. Je veux dire, ça n'est pas une question littéraire, la personne Proust. Alors pourquoi on nous vend ce livre en ne misant que là-dessus? La tendresse que vous éprouvez pour Proust, elle est de quel ordre? C'est ça qui motive ce type de lecture.
C'est une pure tendresse stylistique. Je vous explique. Ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, Proust l'a très tôt. Vous savez, Proust, très tôt, il discute avec Gide, et Gide lui dit, et Proust lui dit à Gide, vous pouvez tout dire à quoi sont jamais les jeux. Gide dit dans son journal, cela fait pas mon affaire. Ouais. Et Proust, très tôt, a compris qu'il ne pouvait pas parler d'homosexualité. Ça se voit. Du coup, il parle d'homosexualité féminine. Et ça, c'est déjà une astuce qu'on retrouve dans la recherche.
Même si cette théorie de la transposition a été là aussi mise en débat.
Bien sûr, bien sûr. En tout cas, voilà, la critique dit que en tout cas, toute la tendresse, l'érotisme, il l'a mis du côté de l'homosexualité féminine, et tout le ridicule, Charlus, etc., Morel, il l'a mis du côté de l'homosexualité masculine. Et ici, ça y est presque. C'est-à-dire que du coup, c'est les filles qui parlent. Le mystérieux correspondant, c'est assez beau. Hein. Ça, en plus, ça... Il reprend une idée qu'on verra plus tard quand il recevra un billet d'Albertine qui en fait est morte. Et en fait, il a pas su lire et c'est déjà là-dedans cette astuce-là. C'est-à-dire qu'on sent les prémices. Et ce qui est intéressant vraiment, c'est de voir comment il a ces idées-là qui sont pas parfaites et comment il va les perfectionner ensuite. Donc ce que j'aime, c'est pas du tout la tendresse ni rien, c'est la richesse génétique. C'est comment à partir d'éléments qui sont bons, parce que quand même, le mystère à correspondance, c'est pas mal quand même. À partir du moment où ils sont bons, c'est cette femme qui croit qu'il y a un homme qui l'aime. Mmh. Et en fait, c'est la
un lettre volée de peau. Avec un ceinturon très long à défaire.
Oui, voilà. Voilà. Et en fait, voilà, elle rêve d'hommes qui laissent traîner leurs sabres dans la rue. Et phrase très étrange chez Proust, mais c'est drôle aussi. Et en fait, c'est sa meilleure amie qui essaye de lui écrire. Voilà. Il y a des choses comme ça. On sent que Proust est pas assez, il a l'idée et il va la perfectionner ensuite. Et moi, c'est ça que j'aime, en fait. C'est de me dire, ah oui, quand même, comment il a vu que c'était pas assez... N'importe quel écrivain regardait cette chose-là. Génétiquement, dans la critique génétique, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Proust l'a transformé. Pour le reste, vous savez, en effet, la grande illusion serait de croire que dans les textes comme ça, les textes mal faits et tout, on découvre plus l'auteur que dans les textes que dans un texte formel.
C'est ce qu'on nous vend un petit peu, je veux pas dire.
C'est pour ça, voilà. Et évidemment, on n'est pas comme ça. Moi, ce qui
ils sont comme ça.
Oh non, parce que Luc Fraisse, qui j'ai parlé quelques années et plus un proustien qu'un marcellien. C'est-à-dire qu'il préfère vraiment Proust, l'auteur, que les marcelliens qui veulent absolument aller voir la cabane de Tante Léonie là-bas. Moi, je crois que c'est un livre qui m'a beaucoup plu, à part la couverture qui est démodée.
Ouais, c'est amusant de le voir s'essayer à différents genres, le conte, le récit à énigmes, dans lequel il excelle absolument pas.
Oui, le conte philosophique. Surtout qu'on n'a pas la fin, donc c'est un peu compliqué.
C'est votre imagination, là aussi, on revient à Modiano, c'est des espaces vides.
C'est Blanchot.
Pardon, mais il évoque quand même un animal très étrange, le chat écureuil. Il
y a ouais, mais évidemment.
Question du chat écureuil.
Forcément, non, mais vous pouvez qu'aimer le livre. Non, mais là, c'est pas du jeu. Quand même, une question demeure. Où sont les dizaines ou centaines de feuillets qui sont toujours cachés?
75.
Ouais, enfin ça, c'est ce qu'on nous dit. Hein.
Bah, c'est dans le fond.
On les a pas comptés, nous.
Ouais, bah, oui, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai compté après 75 feuillets pour donner une ordre d'idée. C'est la taille du Modiano. Voilà, c'est ça.
Ça vous fait rire.
Oui, c'est ça. Vraiment, j'ai compté ce matin.
Tous les Proustiens, puisqu'au moment de l'annonce de ces nouvelles, j'avais aussi interviewé Antoine Compagnon, autre grand Proustien émérite.
Qu'est-ce qu'il disait, tiens?
Lui, il trouvait que c'était une très bonne nouvelle, que tout ce qui vient de Proust est bon à prendre, en tout cas. Non, mais il pensait que ça représentait un intérêt, et en disant qu'en même temps, ce qu'il attendait le plus, ces fameux 75 feuillets.
Qu'est-ce qu'on attend? On attend le centenaire de la publication, de la recherche.
C'est du marketing, peut-être.
Non, mais c'est quoi? Parce que...
Oui, on attend un bon moment. Ouais. C'est 2022. Alors, 2022, je peux vous dire, tous les éditeurs sont sur le coup pour, c'est la centenaire de la mort de Proust.
Ouais, c'est ça.
Tout le monde a un livre qui va être publié. Donc, peut-être. On peut parier.
75 feuillets. Bon, Lucille Comeau est désespérée. Vous voulez ajouter quelque chose?
Non, mais voilà, typiquement, moi, c'est 75 feuillets. J'ai l'impression d'être plutôt une lectrice de Proust. Je m'en fiche, vraiment. Je m'en fiche vraiment.
Mais ouf.
Voilà.
Peut-être vous passionneront-ils, ma chère Lucille, quand ils paraîtront. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir de ce livre à la belle couverture. On est née Marcel Proust, de Mystérieux Correspondant et autres nouvelles inédites, édition de Luc
Fraisse. On n'a pas parlé du mot nouvelle qui est quand même vraiment très problématique, qui est inscrit sur la couverture. Le mot nouvelle, en plus, à cette époque-là d'écriture, c'est quand même quelque chose de très précis et très circonstancié. Beaucoup anglo-saxons, un petit peu Maupassant. Là, à part une ou deux, je ne vois pas bien en quoi ce sont des nouvelles.
Voilà, ça c'était le post-scriptum.
Inachevé.
Oui, envoyé.
Oui. Quelques feuilles, quoi. Quelques feuilles inédites. C'est une édition, on l'a dit, vue par Luc Fraisse. Et avant de conclure cette émission, nous avons le temps, nous allons le prendre pour le jeu de la dispute. David Dalla nous a rejoint en courant. Il va d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir en reprenant son souffle et nous donner sa réponse.
Avec quelle œuvre Patricio Guzman a-t-il remporté l'Ours d'argent en 2015? Et la réponse est avec le documentaire Le Bouton de Nacre.
Ce soir, nous faisons gagner les invitations pour le spectacle « Otage » de Nina Bouraoui, mise en scène par Richard Brunel. Des places à gagner pour lundi 4 novembre, c'est à la Comédie de Valence. Quelle est la question, David?
Qui sont les deux acteurs du spectacle « Otage » ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Toundoy, Luc Ouvier, Lucille Como, Boris Pinot et David Dana. La prise de son ce soir, Jean Frédérics. Réalisation, Émilie Vallard. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée au cinéma. Nous serons en compagnie de Charlotte Garçon, Muriel Joudet et Thierry Chaise. Nous parlerons du film de Marco Bellocchio, Le Traître, et de deux documentaires, XY Chelsea, sur Chelsea Manning, un film de Tim Travers Hawkins, et La Cordillère des Songes, justement de Patricio Guzman, sur l'histoire contemporaine du Chili. Il y aura un coup de cœur de Muriel Joudet pour la sortie en Blu-ray chez Carlotta de trois films de Jean-Claude Brissot, Un jeu brutal, Deux bruits et deux fureurs, Noces blanches, enfin. Concernant les informations sur cette émission, vous rendez sur le site franceculture.fr à la page de la dispute et c'est un site sur lequel vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions.